Bonjour, nous sommes en présence de Frank Stora,
Bonjour.
co-auteur donc des livres Et si la France avait continué la guerre? Pour ma part également Monsieur Wargame, que ce soit de Casus Belli ou du magazine Guerre et Histoire, qui va nous parler un peu plus en profondeur de lui, mais également de toute l'aventure qui se situe derrière la sortie donc, du tome 2 de Et si la France avait continué la guerre, suite du tome 1, jusqu'ici quelque chose de très logique, et qui nous compte donc une subtile uchronie sur la Seconde Guerre mondiale en narrant les péripéties d'une France qui décide de continuer la guerre depuis le territoire algérien, et dans ce cas-là, des années 1941 jusqu'au 17 mai 1942. Le pourquoi du comment quant à l'arrêt à cette date, Franck se fera un malin plaisir de nous l'expliquer à la fin.
Eh bien, nous avons évidemment commencé en 1940, puisque c'est là que se trouvait notre point de divergence. Et l'éditeur ayant considéré que, Talandier d'ailleurs, qu'il faut remercier au passage, ayant considéré que pour l'intérêt du lecteur, il serait préférable d'asseoir le sujet en nous limitant à l'année 1940, notre premier tome, et qui avait commencé avec notre point de divergence le 6 juin 1940, s'est arrêté le 31 décembre de la même année. Eh bien, quand la décision a été prise de faire la suite devant l'excellente réponse des lecteurs, merci aux lecteurs.
À peu près combien? Tu as une idée du
Eh bien,
chiffre?
les chiffres étaient de 6 500 à 7 000 exemplaires vendus au 31 décembre dernier, ce qui est tout à fait sympathique aujourd'hui, en ce début de siècle, pour un livre de ce type. Et donc, la suite commence le 1er janvier 1941, et nous nous sommes beaucoup demandé où l'arrêter. C'était bon, il est exact que si nous avions eu les coudées tout à fait franches, le premier tome ne se serait pas arrêté le 31 décembre 40, mais à l'automne 41. Bon, là, il fallait faire avec, et nous avons cherché un point d'arrêt qui puisse signifier quelque chose. Ce point d'arrêt, ça devait être évidemment un grand événement, et ce grand événement, nous l'avons choisi comme l'attaque de l'URSS par l'Allemagne, 17 mai 1942. Ah, évidemment, ceux qui connaissent un peu vont dire, mais pas du tout, Barbarossa, c'est fin juin 41, mais non. Barbarossa, dans notre hypothèse, est considérablement retardée, ne va pouvoir démarrer qu'en 1942 et va démarrer dans le courant du mois de mai, dès que les opérations redeviennent possibles en Europe de l'Est et dans l'Ouest de l'Union soviétique, un dimanche, donc le 17 mai 1942. C'est sur le déroulement de cette journée et sur les réactions du monde entier à cet événement que nous arrêtons notre tome 2, et nous espérons que commencera notre tome 3 si tout va bien.
Alors, parlons un peu plus de toi. Donc, comme je l'ai dit, avant d'arriver à cette aventure, pour moi, en tant que vieux lecteur, enfin vieux, c'est un peu gros de Cassius Belli. Moi, j'avais le souvenir justement de la double page consacrée au wargame que tu as tenue pendant fort longtemps.
Et avant ça, il y avait plus qu'une double page, avant que je m'en occupe d'ailleurs. Et tout le monde, même ceux qui ne l'ont jamais connu, se souviennent qu'au temps jadis de jadis de jadis, Casus Belli, c'était uniquement des wargames ou à peu près.
Oui, Wargame, jeu de rôle, et puis ensuite jeu de rôle.
Et bien, effectivement, j'ai aimé les wargames depuis que, je crois bien, depuis que j'en ai vu un. Et avant ça, évidemment, j'aimais l'histoire. Et puis, bon, je me suis mis assez vite à considérer les wargames comme un outil de réflexion sur l'histoire absolument exceptionnel. Et parmi les sujets en question, la Deuxième Guerre mondiale, mais là, c'est loin d'être une originalité. Je me suis intéressé aux potentialités ouvertes par les what if, comme disent nos amis anglo-américains, les histoires alternatives, les points de divergence, parce qu'un wargame, ça n'est jamais qu'un générateur de points de divergence. Vous avez un wargame sur une bataille quelconque, si le résultat que vous obtenez n'est pas rigoureusement le même que celui de la bataille historique, vous venez de générer un point de divergence. Et là, il s'agissait d'aller voir ce qui se passait en aval de ce point de divergence. Et évidemment, il y a beaucoup de jeux stratégiques sur la Deuxième Guerre mondiale. Et l'une des choses que j'ai toujours trouvées le plus irritante et le plus vexante d'un point de vue franco-français, c'est que dans presque tous ces jeux, la France est condamnée pratiquement à demander l'armistice à un moment ou à un autre, et en général plutôt au début que plus tardivement. J'ai regardé ce qui se passait à l'intérieur des jeux, j'ai constaté que le plus souvent il existait des mécaniques du jeu qui forçaient en quelque sorte ce déroulement. L'une des raisons, eh bien l'une des raisons, c'est peut-être que dans un wargame Deuxième Guerre mondiale qui donnerait beaucoup plus de cartes de potentialité à la France, ben peut-être que le joueur américain n'arriverait jamais en jeu, ce qui serait pas très bon pour le public américain. Voilà. Mais l'autre raison, évidemment, c'est que en réalité, ce qui a déclenché la sortie de la France du conflit n'est pas directement militaire, pas directement wargaming, je dirais, mais davantage un événement politique. Et c'est là que ça devenait beaucoup plus intéressant pour une narration d'histoire alternative. Il est beaucoup plus facile de considérer à tel moment on va décider que le vent politique souffle dans l'autre sens, que de décider que telle bataille, finalement, elle va pas être gagnée, elle va être perdue, ou le contraire. Parce que pour qu'une bataille qui a tourné dans un sens historiquement tourne dans l'autre sens, il faut envisager des événements, éventuellement des matériaux différents, des plans de bataille différents. Tandis que là, il suffisait de considérer que l'état moral des personnalités les plus impliquées au premier chef Paul Reynaud était différent. Et c'est ce bouton déclencheur du point de divergence sur lequel nous avons choisi d'appuyer pour lancer notre histoire alternative.
Alors justement, comme tu te réfères souvent non pas à je, mais à nous, derrière ce livre, et même je dirais avant le livre, il y a aussi une autre histoire, celle d'un site, il y a toute une équipe. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur tes compagnons de route, je dirais?
Alors, sur la couverture du livre, vous voyez trois noms: Jacques Sapir, Frank Stora, Loïc Mahé. Sur la page de garde, vous avez les mêmes trois noms qui reviennent sous la direction de Jacques Sapir, Frank Stora, Loïc Mahé, et avec la collaboration de, là, il y a sept autres noms, légèrement différents dans le tome 2 du tome 1. Dans le tome 1, c'était six noms, dans le tome 1, c'était six noms, oui, c'est ça. Dans le tome 2, c'est sept noms, un petit peu différents. Et il y a encore une douzaine d'autres compagnons de route qui sont cités en préambule. Qui sont ces gens-là? C'est la magie de l'Internet. Alors l'Internet a beaucoup de défauts, beaucoup de gros défauts, et il a cette grande qualité de permettre de se réunir à des gens qui se seraient sinon complètement ignorés, et qui seraient restés épars. Déjà dans les trois premiers, Jacques Sapir, moi-même et Loïc Mahé, nous aurions pu signer au dos de la couverture comme Jacques Sapir, économiste, Frank Stora, docteur en médecine, Loïc Mahé, docteur en chimie. Ça aurait fait drôle, je pense, pour ce genre de livre. Alors, il valait mieux prendre nos autres casquettes et signer Jacques Sapir, spécialiste de la stratégie et directeur de recherche à l'École des hautes études en sciences sociales, Frank Stora, journaliste et spécialiste des jeux de simulation, Loïc Mahé, informaticien. Et tout ça est vrai. Toutes ces étiquettes sont vraies pour eux comme pour moi. Internet nous a donc réunis, alors qu'il est certain qu'un médecin, un informaticien chimiste et un économiste auraient pu courir longtemps avant de se rencontrer. Internet nous a réunis sur un site américain, le Naval Fiction Board, qui continue aujourd'hui de très bien marcher avec des histoires de toutes sortes. Et sur ce site, un correspondant américain s'était demandé ce qu'aurait pu devenir le conflit si les Français avaient accepté l'offre de dernière minute de Churchill de fusion des États anglais et français. Et Loïc avait répondu et la discussion s'était prolongée. Jacques Sapir était intervenu pour expliquer que ça paraissait assez difficile et même extrêmement improbable. On était déjà trop mal engagé ce jour-là. Mais qu'en revanche, en remontant de quelques jours dans le passé, il y avait un point de divergence possible qui permettait à la France d'avoir la volonté politique de tenir le coup et de rester dans le conflit. Et Loïc Mahé a prolongé ses discussions sur le site français Stratégicon, qui lui aussi existe toujours et qui va très bien, je pense. Et a commencé à se faire l'écho de ces discussions par des petits résumés. Parce que ces discussions ont cessé d'être des discussions pour devenir des narrations. On s'était dit, voyons, notre ami australien Mark Bailey nous avait dit, mais les Italiens, ils auraient été bien en peine d'attaquer l'Afrique du Nord française, parce que les forces italiennes en juin 40, en Afrique du Nord italienne, sont totalement ridicules. La flotte italienne en juin 40 est totalement incapable d'influer sur les événements en Méditerranée. Et certes, les Italiens jouent un rôle important dans le conflit, mais c'est parce que l'Angleterre, qui se retrouve toute seule, ne peut rien faire avant la toute fin de 1941. De 1940, pardon, et le tout début de 41, dans le désert. Ce qui laisse le temps aux Italiens de se renforcer tant sur mer qu'en Libye. Là, si les Français restent dans le conflit, la position italienne dans toute l'Afrique va d'aventurer va devenir catastrophique. Nous sommes donc partis là-dessus et Jacques Sapir a commencé à faire des narrations en anglais. Loïc a commencé à faire des résumés de ces narrations en anglais, à les faire en français sur le Stratégicon. C'est là que je suis arrivé. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, c'est bien dommage quand même qu'on ait seulement ces petits résumés, alors qu'en allant sur le Naval Fiction Board, on trouve des textes beaucoup plus intéressants, beaucoup plus longs. Et j'ai proposé à Jacques Sapir de faire les traductions de ces textes anglais, de les faire en français, donc pour le Stratégicon. Jacques a dit, ça me paraît tout à fait bien. Et j'ai commencé à poster sur le Stratégicon les traductions des textes intégraux. L'accueil ayant été enthousiaste, ce qui prouve que tous nos amis Wargamer, belliludistes, intéressés par l'histoire, etc., n'ont pas encore une pratique de l'anglais totalement fluente. Et puis après tout, ils ont peut-être aimé mon style en français. Et donc j'ai continué, j'ai fini par traduire tout ce que Jacques faisait en anglais sur le Naval Fiction Board, je le faisais en français sur le Stratégicon. Cela a attiré une quantité de courriers tels que le site, le Stratégicon, a fini par nous dire, bon, les enfants, vous êtes gentils, mais si vous alliez sur votre site à vous, ça serait bien. C'est donc ce qu'on a fait. Nous avons créé notre site et notre forum propre, www.1940lafrancecontinuelaguerre.org. Voilà, et ce site n'a fait que croître et embellir, bien sûr, notamment après la parution du premier tome qui a littéralement fait exploser le nombre des abonnés.
Alors, pour en toucher deux mots justement à nos lecteurs, sachez que la lecture des livres et du site sont complémentaires, partant du principe que vous avez pris un bon parti pris finalement pour les livres, c'est de faire une relation de la guerre comme si c'était un véritable livre d'histoire, une histoire chronique de la Seconde Guerre mondiale, au jour le jour, partout dans le monde, parce qu'on se rend compte qu'avec effectivement un tout petit événement, la France reste dans le jeu. Tout ce qui est, comme tu le dis si bien, que ce soit au niveau de la guerre, mais également au niveau de la diplomatie, au niveau des connaissances, au niveau des relations, au niveau des rencontres
Scientifique.
entre êtres humains, voilà.
Un de nous a même fait l'influence du fait que la France continue la guerre sur la marine suisse. Faut pas rigoler, il y a une marine suisse marchande, et tout simplement parce que les Suisses ont absolument besoin de se ravitailler, que pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était très difficile, qu'ils ont recouru à des bateaux neutres, et que dans l'ambiance de la France qui continue la guerre, beaucoup de bateaux ne pouvaient plus aborder dans les ports du sud de la France pour envoyer leurs marchandises en Suisse. Et donc, alors que c'était possible historiquement, donc les Suisses sont conduits à augmenter leur marine marchande. Vous voyez, ça va vraiment très très loin.
Et là où c'est assez amusant, c'est que du côté, donc sur le site, on a droit à une histoire, mais quasiment du Dumas, avec de la gouaille, de multiples petites anecdotes, des clins d'œil, des personnages, qu'ils soient réels ou totalement inventés, ou justement en clin d'œil par rapport à des personnages de BD, de films ou autres. Donc j'allais dire finalement que ça soit l'un ou l'autre, on a autant de plaisir à lire le livre pour avoir une relation extrêmement précise, extrêmement complète sur cette Seconde Guerre mondiale alternative, et à s'amuser ensuite à aller sur le site pour découvrir tout un tas de petites histoires qui finalement prouvent, enfin dans certains cas, bah quasiment que c'est quasiment pas de la fiction. En plus, dans mes souvenirs, vous êtes inspiré d'énormément
Très,
de faits
très, 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 très
familiaux
bon.
ou
Il y
de
a
faits
beaucoup,
historiques.
parmi les choses les plus étonnantes dans le livre comme sur le site, celles qui vont le plus faire dire aux lecteurs, oh là là, mais ils ont trop d'imagination. Ben non, ça c'était vrai. Certains événements qui paraissent complètement ahurissants, eh bien en réalité, nous avons fait que les tirer de l'histoire. Et dans le cadre de notre histoire alternative, ils sont simplement mis en relief, alors que dans le cadre de l'histoire telle que nous la connaissons, ils sont restés un petit peu à l'arrière-plan. Ils ne sont pas. Mais ce sont des événements sur lesquels nous n'avons rien changé. Par exemple, la catastrophe industrielle, comme il y en a peu dans l'histoire de l'aviation, la catastrophe industrielle du Messerschmitt 210, et qui a été vraisemblablement le plus grand échec de l'histoire de l'aviation militaire, en tout cas des origines à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et qui est passé plus ou moins inaperçu de l'histoire de notre Deuxième Guerre mondiale. Mais dans cette Deuxième Guerre mondiale rêvée, le même événement se produit, le même échec se produit, et il a des conséquences beaucoup plus graves parce que l'Allemagne ne peut absolument pas se le permettre. Donc, mais ceux qui diraient, ah mais non, ils se facilitent les choses, ils montrent que les Allemands sont nuls, non, 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 ça s'est vraiment produit. Simplement, c'est quelque chose qu'on n'a pas eu l'habitude de lire dans la plupart des histoires de la Deuxième Guerre mondiale.
Alors, un truc qui pour ma part m'a vraiment interpellé, vu que je suis en plein dans la lecture justement du tome 2, c'est de me rendre compte que finalement, effectivement, Roosevelt avait raison, avec le fameux Europa First. Tout s'est joué en Europe finalement. Quand on y regarde bien, on a vraiment l'impression que la Seconde Guerre mondiale s'est jouée essentiellement là-bas, enfin chez nous, quoi, finalement. Et que le conflit américano-japonais n'en a été qu'une extension finalement qui devait avoir lieu vu les relations extrêmement tendues entre l'Amérique et le Japon, mais où le sort de la guerre se jouait finalement sur un continent que l'Amérique souhaitait, pour ainsi dire, bon gré mal gré, un peu laisser à son sort. Et là où c'est intéressant, c'est que vous resituez aussi énormément tout le rôle, tout l'impact qu'a eu cette guerre dans bon nombre de pays, que nous, Français, avons tendance à oublier,
Le
que ce soit la
retentissement.
Yougoslavie, la Grèce ou autre.
L'attitude de beaucoup de pays a été profondément influencée par le sort de la France. Et je dirais pas seulement par la défaite militaire de la France. Ce genre de choses arrive. La France avait déjà été battue. La plupart des pays ont déjà subi des défaites militaires. Certains font comme si ça n'était jamais arrivé. Et les Anglais, par exemple, savent très bien faire oublier qu'ils ont perdu un certain nombre de batailles et même de guerres. Mais ça arrive. En revanche, une défaite politique aussi catastrophique que celle dont la France a été victime en juin 1940, ça n'arrive pas, ou en très rarement, et quand ça arrive à un pays comme la France, qui, qu'on le veuille ou non, à l'époque, était vraiment l'un des super grands, eh bien, ça marque profondément le monde entier, et les réactions de la plupart des autres pays en sont profondément influencées. Et nous-mêmes, historiquement, nous portons encore la trace quotidienne de cet événement de juin 40. Donc, nous n'avons pas hésité et nous avons été obligés, pour montrer tous ces retentissements, d'aller finalement dans toutes les directions sur la planète. Vous parliez du Japon. Alors, le Japon a été pour nous un gros problème, car si les Japonais avaient été tout à fait froids et rigoureux dans la prise de décision politique, d'abord, historiquement, ils n'auraient probablement pas été jusqu'à la guerre. Et dans notre hypothèse de la France continue la guerre, ils ont encore plus de raisons de ne pas faire la guerre. Mais les Japonais étant japonais, et le gouvernement japonais de 1941 étant ce qu'il était, et le changement français n'allait pas pouvoir l'influencer, les Japonais ne pouvaient pas faire autrement que pousser, qu'aller au maximum, que quand même tenter ce coup de poker. Ils n'ont jamais prétendu que... En fait, la stratégie japonaise, c'était d'infliger aux États-Unis et à leurs alliés européens des pertes telles que ces pays se diraient « Bon, écoutez, on va leur fiche la paix, on va les laisser, on va se concentrer sur l'Europe, qui est vraiment important. » Et ils ont été très embêtés de constater que les Américains pouvaient faire les deux et qu'ils étaient tellement furieux de s'être fait attaquer et ridiculiser, en fait, qu'ils allaient en tirer une vengeance pleine et entière. Et ça, vraiment, les Japonais ne l'avaient pas compris. Mais il est évident que même dans la situation encore plus difficile pour eux qu'est la situation de notre histoire alternative, pour le gouvernement japonais, pour le gouvernement Tōjō, c'est le choix est simple, c'est soit on va jusqu'à la guerre quand même, d'une façon ou d'une autre, soit c'est l'honorable chose, c'est beaucoup. Il leur est impossible de dire « Ah ben, finalement, on se retire de Chine. On est des gentils japonais et on va quémander notre pétrole aux États-Unis. » Non, c'est impossible. Le gouvernement japonais, surtout à l'époque, qui ferait ça, c'est Harakiri tout de suite. Donc, n'ayant pas envie de faire Harakiri tout de suite, ils ont finalement repoussé le Harakiri jusqu'en 1945.
Puis, pour rebondir par rapport à un très très bon bouquin, une uchronie fantastique de Xavier Mauméjean, « Rosée de feu », mettant en scène un Japon ayant domestiqué en fait des dragons, qui seraient des espèces de survivants de dinosaures, mais dans le cadre d'une Deuxième Guerre mondiale. Alors, livre que je recommande chaudement, parce que Xavier a fait un très très beau livre, et montre bien justement toute la poussée de nationalisme propre aux années 30, et à la fin des années 30, c'est vrai qu'on a une succession par moment de coups d'État, d'officiers ultranationaux, qui estiment que de toute façon, la seule solution à apporter face aux Occidentaux, c'est la guerre. Donc, comme tu dis, bon gré mal gré, finalement, on se dirige...
Ce n'est pas parce qu'ils ont envie de faire la guerre en tant que tel aux Occidentaux, c'est parce que ils ont besoin, pour continuer leur politique en Asie, ils ont besoin de matières premières, de pétrole, etc., que les Occidentaux, voulant les empêcher de continuer leur politique en Chine, les privent de ces matières premières, donc c'est la guerre.
Voilà.
C'est une bonne vieille guerre pour les matières premières, ce qui d'ailleurs différencie immédiatement la guerre du Pacifique de la guerre, je dirais, européenne autour de l'Allemagne, qui avait des motivations qui étaient malgré tout assez différentes.
Alors, si le livre s'arrête donc pour l'instant à la date du 17 mai 42, le site lui continue plus avant, et je sais que maintenant, le challenge dans mes souvenirs à l'origine, c'était d'essayer de continuer en se disant, bah tiens, un an après les événements, comme le rappelait Jacques Sabir dans la très très bonne introduction du tome 1, plus on s'éloigne du point de divergence, plus il y a le risque où automatiquement vous aurez des gens qui vont agiter le drapeau rouge en disant « Non mais là les cocos, attention, ça devient plus possible » ou psychologiquement vous êtes en train d'essayer d'influencer pour que ça aille dans cette direction parce que c'est ce qui vous intéresse. Là, maintenant, finalement, vous avez quand même le rêve, l'idée de pousser le conflit jusqu'à la fin de la guerre.
Alors, pour essayer d'être plus... Nous avons évidemment cette idée. Mais si nous n'avons apparemment pas beaucoup progressé depuis de nombreux mois dans le fil chronologique, c'est tout simplement parce qu'arrivant aux abords de la fin 1942, nous sommes rendus compte que nous avions un besoin non seulement d'allongement, mais d'approfondissement de notre discours. Parce que les hypothèses qu'on prenait, on était amené à se dire, oui, mais à ce moment-là, qui va prendre le commandement, par exemple? Et à se rendre compte que si on voulait savoir qui allait prendre le commandement en novembre 42, il fallait reconstituer l'histoire du commandement jusqu'à partir de notre point de divergence. Et que ça, au début, c'était apparu comme une question secondaire et qu'on ne l'avait pas fait. Et on a donc commencé à le faire, c'est ce que j'appelle approfondissement. Et l'organisation des troupes, leur équipement, etc., tout cela, on a été amené à l'approfondir en 1940, en 1941, en 1942. Nous avons totalement fini 40, nous sommes en train de finir totalement 41. Normalement, le texte intégral complet, on devrait mettre un point final d'ici la fin du mois de juillet. Et nous pourrons à ce moment-là nous lancer dans des spéculations beaucoup plus solidement assises pour 43, fin 42, 43, 44, 45, sachant qu'un troisième tome ne serait pas une narration au jour le jour comme l'était le premier tome, mais qu'il serait beaucoup plus, je dirais, des morceaux de bravoure de narration encadrant des réflexions sur l'évolution globale du conflit et du post-conflit. Car il est évident qu'on va pas, là, si tout se passe bien et qu'on fait un troisième tome, nous ne lâcherons pas le lecteur en leur disant, voilà, aujourd'hui la guerre est finie et au revoir. Non, alors voilà, qu'est-ce qui peut se passer? Alors, pour les différents pays, pour l'équilibre du monde en général, mais en particulier pour la France, il y a une immense question. Quelle est l'influence de cette Deuxième Guerre mondiale alternative sur l'après-guerre, c'est-à-dire sur la reconstruction et sur la décolonisation? C'est deux éléments tout à fait capitaux de notre histoire à nous, moderne, et qui auraient de toute évidence été profondément modifiés par une Deuxième Guerre mondiale telle que celle que nous la décrivons dans notre histoire alternative.
Alors, une petite parenthèse, ce n'est pas la première fois qu'on traite justement d'une possibilité que la France continue la guerre. Moi-même collectionneur du Chrony, donc j'ai mis la main il y a bien longtemps sur un livre, L'appel du 17 juin, d'André Costa. Tome qui se finit sur, pour ainsi dire, un énorme cliffhanger où on se dit, tiens, il y aura peut-être éventuellement un tome 2. Le livre a été un échec commercial assez cuisant, donc on ne saura jamais si une suite était programmée ou pas. Et j'ai appris justement grâce à toute l'équipe de la Fantasque Timeline que derrière ce que je pensais, enfin je croyais vraiment naïvement être tombé sur une bonne uchronie, s'étant amusé à reprendre des personnages connus pour les remettre dans un autre contexte. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, histoire de ne pas trop en dévoiler toute la teneur, disons que De Gaulle réussit à convaincre le maréchal Pétain de continuer la guerre, et donc que la France déménage, ce qu'elle peut déménager à l'époque, en Algérie. Donc là, déjà, on a un peu un point en commun. Et ensuite, ça commence un peu à partir dans d'autres directions. On tombe sur un Darnan ultra résistant qui va éliminer des Allemands, ainsi de suite. Et là, surprise, sur le forum, j'apprends que Costa, en fait, faisait partie, pour ainsi dire, de la droite dure, et que le livre n'a été écrit, pour ainsi dire, que pour légitimer à nouveau, je dirais, la thèse du bouclier et de l'épée, à savoir Pétain et De Gaulle marchant main dans la main pour aller, pour ainsi dire, combattre véhément Hitler. Donc, une espèce de regret nostalgique et autres.
Quand on écrit l'histoire et quand on écrit l'histoire alternative, c'est la même chose. Il faut toujours se poser la question de l'historien, du rédacteur. Qui est-il? D'où vient-il? D'où parles-tu, camarade? Comme disaient nos amis gauchistes il y a quelques dizaine d'années déjà, c'est une mode qui s'est un peu perdue, mais qui n'est pas complètement idiote. Et effectivement, j'avais lu ce livre lui aussi lors de sa sortie, j'en avais même parlé dans Casus Belli, ce qui n'avait pas empêché le livre d'être un échec commercial. Bon,
Très
c'était
bonne description de bataille navale. Ça, s'il y avait
très,
un truc à
très
sauver.
bonne, très bonne description de bataille navale, un petit peu.
Mais très
Je
aride.
ne suis pas tout à fait d'accord quant à la très bonne description. Sympathique,
Oui.
mais techniquement, je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit aussi bon que. Bon, enfin, ce n'est pas le principal. Non, le principal, c'est vraiment qui parle. Et effectivement, André Costa, à l'époque je l'ignorais tout à fait, André Costa était quelqu'un d'assez marqué politiquement. Mais alors, vous direz, pourrez-vous vous dire à bon droit, qui êtes-vous, d'où parlez-vous, camarade? Eh bien, là encore, c'est la merveille de l'Internet. Je pense savoir, je pense que eux l'ont deviné au fil du temps, que je dirais les opinions politiques de mes complices. Les deux premiers, Jacques Sapir-Loïc Méhé, et les suivants, qu'il s'agisse de Jean-Marc Mandel, Patrick Voisin, Alain Venturini, Laurent Arenales del Campo, ou Alexandre Bertrand, j'en oublie sûrement, il y avait Benoît Gérard, il y avait. Et Jean Schreiber. J'espère. Je n'ai pas pris note de ce que j'ai dit, donc tant pis. Mais. Je suis convaincu que tous n'ont pas les mêmes opinions politiques, que certains ont même des opinions politiques assez différentes les unes des autres. L'important est que nous nous retrouvions dans une, je
Franche
dirais,
camaraderie.
une camaraderie républicaine
Oui.
et française. Et ça c'est important. Mais l'important aussi, c'est que ça nous permet d'éviter de dévier du côté du livre d'auto-justification d'une tendance politique. C'est ainsi que certains auraient bien vu le Parti communiste français de l'époque se retrouver ridiculisé et traîné dans la boue. Ce qui était envisageable, mais ce qui ne nous paraissait pas probable. Certains voient un destin tout à fait mineur pour le général de Gaulle, d'autres lui voient au contraire un destin tout à fait majeur, et ainsi de suite. Mais le fait d'en discuter nous permet, je pense, d'avoir des résultats qui ne sont pas forcément des résultats moyens, mais qui sont en tout cas des résultats qui ne sont pas excessivement partisans.
D'ailleurs, en parlant de Parti communiste, le Limoges que je suis remercie justement l'équipe pour les petits paragraphes consacrés à Georges
Ah,
Guingouin, ce
mais
qui m'ont
c'est.
énormément touché, et dire partant du principe que je suis de ce coin-là et que c'est un peu les histoires qu'on se raconte
Oui, et
au coin du feu.
je regrette beaucoup de ne pas avoir pu mettre dans le livre la totalité de l'épisode principal dont vous parlez, et qui est beaucoup plus détaillé, narrativement parlant, sur le site. En fait, j'en profite pour dire que ceux qui ne connaissent pas ou peu notre démarche, avec le livre, ils vont trouver quelque chose qui va leur permettre ensuite de s'orienter sur notre site. Parce que ce que nous avons produit pour, disons, du 6 juin 40, début du premier tome, jusqu'au 17 mai 42, fin du deuxième tome, ne couvre pas l'équivalent de deux tomes, il couvre environ l'équivalent de 10 tomes. Donc, à moins de se jeter là-dessus et de tout dévorer d'un coup, le fait d'avoir lu le livre permet de se dire, tiens, ça m'intéresse, je vais creuser. Où est-ce que je vais creuser? Eh bien, c'est facile sur notre site de retrouver l'endroit où il en est question et tout ce qu'on a pu raconter là-dessus.
Alors pour conclure, deux très beaux passages dans le livre, que ça soit la bataille de Singapour, qui va devenir une immense bataille finalement pour l'Empire britannique face aux Japonais, les très très beaux passages concernant le général MacArthur et le combat dans les Philippines, passage écrit par une Américaine.
Je regrette beaucoup pour le lecteur du livre, mais étant donné que nous avons choisi de nous arrêter au 17 mai 1942 et le déroulement des événements dans notre histoire alternative, le principal de la bataille des Philippines, de la bataille terrestre des Philippines, se situe après. Donc, pour les amateurs de Philippines, et effectivement, c'est un texte absolument magnifique, écrit par une Américaine, en effet, une professeure d'histoire américaine. Ceux-là pourront aller sur le site. S'ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de MacArthur? Bien, allez voir sur le site, il y a vraiment un morceau de bravoure qui vaut le déplacement. Quant au combat sur Singapour, alors c'est toujours très spectaculaire dans le Pacifique. Il faut toujours se rendre compte qu'historiquement, les Américains avaient déployé dans le Pacifique moins de 30% de leur puissance et qu'ils avaient prévu d'en déployer à peine plus de 15%. Tellement ils sous-estimaient le Japon au départ. Ce qui montre bien que l'important, c'était en Europe que ça se passait. Mais dans le Pacifique, c'est très spectaculaire. Et effectivement, nous devons à un Australien un récit archi détaillé de la bataille de Malaisie et de la bataille de Singapour, qui là encore est seulement résumé dans le livre, évidemment. Et cet ami australien a fait une œuvre, a work of love, dirait-il, je pense. En fait, un travail d'amour filial, puisque son père y était. Et c'est l'un des très nombreux motifs qui nous ont poussés les uns et les autres à se mettre à participer à cette aventure.
Pour conclure, donc, un site et un livre à découvrir, à lire, et j'allais dire, on pourra en parler dans peu de temps au musée de l'armée aux Invalides, partant du principe qu'il va y avoir une deuxième table ronde, les deuxièmes rencontres uchroniques, donc cette fois-ci centrée sur ce tome 2, cette aventure justement, et si la France avait continué la guerre en 1940, traitant donc des livres, du site et en même temps de tout le potentiel finalement qu'il y a derrière l'Uchronie. Franck Stora, merci.
Merci
Donc
beaucoup.
à très bientôt. Et pour l'instant, jetez-vous sur le livre qui est donc disponible dans toutes les bonnes librairies. En attendant, je l'espère avec beaucoup d'impatience, le tome 3.
Espérons.